Nous allons voir Colossiens chapitre 2, versets 8 à 15 ce matin. Alors on y va dans la lecture. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bon, c'est un passage qui est très très riche. Hein. J'ose faire 8 à 15, mais je sais très bien que je ne vais pas pouvoir tout décortiquer et tout rentrer dans les détails, la profondeur de ce passage. Mais ce qu'il faut qu'on retienne de ce passage, de ce texte qu'on vient de lire, c'est vraiment cette notion tout pleinement en Christ. Et je crois que c'est un peu le thème de Colossiens, c'est tout pleinement en Christ, être épanoui en Christ. On va voir tout pleinement. La première chose, c'est la pleine philosophie. Ensuite, le plein pardon, continue, et la pleine victoire. Voilà, reste là-dessus pour l'instant. Les questions « Qui suis-je »,« Qu'est-ce que je fais sur cette terre ?» et « Où je vais ?» sont des questions que chaque être humain va se poser sur cette terre. Je me suis posé ces questions, je ne sais pas si toi tu les as déjà posées, mais « Qui suis-je » et « D'où je viens ?» On se pose ces questions. Et la philosophie de ce monde essaye d'y répondre. Les philosophies de ce monde essayent de répondre à cette question, mais en vain. Le mot philosophie n'est pas mauvais en soi. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. C'est pas mauvais comme terme. Mais la question c'est, quel amour et quelle sagesse? Le problème c'est que la plupart des philosophes nient l'existence de Dieu, ou ils ont une vision non biblique. Beaucoup de ces philosophes ont terminé leur vie dans la folie à cause de ce vide en eux. La plupart de ces philosophes, qu'on commence de Socrate à Platon jusqu'à aujourd'hui, avec des hommes qu'on verra peut-être tout à l'heure rapidement, Derrida, qui sont des hommes qui influencent, et vous allez voir qu'ils influencent votre vie. Depuis les pensées de Platon jusqu'à aujourd'hui, les philosophes et les philosophies influencent votre vie de chaque jour. Et je vais vous montrer 2-3 détails des fois dans vos vies qui sont influencés par la philosophie de ce monde et pas par la philosophie biblique. Et c'est fou comme ce monde de pensée est un danger quotidien pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. » Cette rébellion contre Dieu, ces hommes-là, les amène souvent au désespoir. Et regardez un peu avec moi Romain, qui parlait déjà de un peu de ces philosophies un peu folles. Romain chapitre 1. La philosophie veut nous kidnapper, mes amis. Elle veut nous kidnapper et nous faire ses prisonniers. Je parle de la philosophie de ce monde. Hein. On va voir qu'on a une pleine philosophie en Jésus-Christ tout à l'heure. Je vais commencer peut-être à partir du verset 18 de Romains 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, ces hommes, tous ces philosophes, Dieu s'est révélé à eux. Ils peuvent voir dans la création que Dieu existe. Et leur intelligence aussi peut comprendre que Dieu existe. Mais verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils sont égarés dans leur philosophie, dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, tous ces philosophes se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Et mes amis, si vous étudiez la vie des philosophes, la plupart terminent dans la folie. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, ainsi de suite. Et on va voir que toute cette philosophie, Paul en parlait déjà aux Romains, cette philosophie dangereuse. La philosophie de ce monde est menteuse et séduisante. Si Paul avertit les chrétiens de l'église de Colosse il y a maintenant 2000 ans, c'est parce qu'il sait que les gens qui ignorent les vérités de la parole de Dieu vont pouvoir être séduits et fascinés par ces philosophies. Et on peut être fasciné par la philosophie de ce monde et commencer à y adhérer tout doucement. Vous savez, les discours des philosophes sont attirants. La philosophie de ce monde a quelque chose vraiment de séducteur. Parce que souvent, ça revient à l'homme. Donc à moi. Et on aime ça. Il faut voir aussi que ces philosophies, nous parlent, on revient dans Colossiens, ces philosophies sont mélangées, il est marqué de ça, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. La philosophie est aussi mélangée par la tradition des hommes. Satan se déguise en ange de lumière, pour apporter sa philosophie. Et sa philosophie va commencer par passer dans notre monde par les grandes religions. Les grandes religions de ce monde ont une philosophie. Et je crois que le diable utilise ces grandes religions et sa philosophie avec les traditions des hommes pour emmener le maximum d'âmes en enfer. Ça, c'est le but du diable. Le but du diable, c'est d'attraper les gens qui n'ont pas mis leur confiance en Christ encore et de lui dire, regardez, venez là, c'est là la vérité, venez là. Et on va voir un tableau. Est-ce qu'il y est ? Voilà, quelques traditions qui prennent le dessus sur la parole de Dieu. J'avais noté, la philosophie des grandes religions de ce monde sont les outils du diable. Donc le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme. Et tout ça nous entoure. Vas-y, on va commencer un peu. Voilà, j'ai juste pris quelques passages. J'aurais pu prendre pour chaque religion un peu pour montrer que c'est attirant. Par exemple, la Bible dit, et moi ma vie ne fonctionne qu'avec la parole de Dieu. Elle est la seule critère de vérité. Le catéchisme catholique dit que, j'ai des textes qui sont fondés sur ces choses-là, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est leur catéchisme. La vérité est fondée sur l'écriture, la tradition et la papauté. Erreur. Tradition humaine. Philosophie mensongère. La Bible dit, le salut s'obtient par la grâce seulement par la foi. Le verset est marqué là-bas, de la parole de Dieu. Pour eux, le catéchisme catholique, la grâce est simplement une aide. Elle passe par les sacrements de l'Église. Où c'est que c'est marqué ça? Le sacrifice de Christ est achevé et pleinement suffisant. On le voit dans l'hébreu, à plusieurs reprises. Pour eux, le sacrifice de Christ continue. C'est pour ça que vous voyez dans les églises catholiques, Christ qui est toujours crucifié. Parce que pour eux, s'il n'est plus crucifié, il ne peut plus continuer à faire ce sacrifice-là. Mais Christ, il est mort une fois pour toutes. Il a été enterré, il est ressuscité, il est vivant. Mais laissons-le vivant au ciel. Qu'est-ce que c'est que ce Christ qu'on laisse crucifié? C'est un Christ perdant. Et ma foi est vaine. Pour moi, le Christ que je sers est vivant, il est ressuscité, il n'est plus accroché à la croix. Mais si vous voyez le Christ dans les églises catholiques accroché à la croix, c'est parce que pour eux, son sacrifice est continuel. Et presque pas suffisant. Donc là aussi encore, tradition humaine, c'est les hommes qui ont fabriqué ça. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes et le seul moyen de salut. On le voit dans Timothée, il est clair ce verset. Mais non, ils veulent avoir d'autres personnes comme Marie. Marie est aussi médiatrice dans le catéchisme catholique, ce qui n'est pas fondé bibliquement non plus. Donc vous voyez toutes ces choses que l'ennemi utilise et il attire du monde avec ça. Et j'aurais pu faire un tableau pour l'islam, pour le bouddhisme, pour l'hindouisme. Et des fois, ils prennent des petites choses bibliques, hein. Mais ils rajoutent leur tradition qui fausse le message essentiel de la parole de Dieu. J'avais noté ça d'un homme qui c'était intéressant. Croire à des traditions humaines de génération en génération ne signifie pas que c'est vrai. Bien souvent, la tradition sert à perpétuer l'erreur. Et on croit parce que mon grand-père a cru, parce que mon père a cru. Donc moi j'y crois et je vais le transmettre à mes enfants. Mais des fois, on est toujours dans l'erreur, mes amis. La seule qui peut nous éclairer pour savoir si on est dans l'erreur ou dans la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les philosophies mélangées de traditions humaines ont pour but de perdre et détourner nos yeux de l'essentiel, Jésus-Christ. Regardez avec moi ce que Jésus dit à la philosophie juive, je dirais, et aux traditions de ces hommes. Prenez avec moi Marc. Marc 7. Donc des religieux, hein, des hommes qui pensaient vivre pleinement pour Dieu, qui voulaient servir Dieu. C'était ça leur désir. Regardez ce que Jésus va leur dire. Donc Marc, chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Donc l'importance de se purifier. Comme quand vous rentrez dans une mosquée, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, j'ai pu y assister 2-3 fois dans des moments de prière, et on est obligé de rentrer et de se laver les mains, de se laver les oreilles, l'intérieur de la bouche, les pieds. On a plusieurs endroits dans l'islam où on est obligé de se laver pour rentrer et arriver au moment de la prière. Et c'est un peu ça le principe aussi ici du juif. Ils doivent se laver avant les mains avant de pouvoir rentrer peut-être dans cette forme d'adoration. Et quand ils reviennent de la place publique, ils mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et regardez cette phrase de Jésus, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite. » Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Verset 8. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est aussi une offrande à Dieu, et vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous voyez comme la tradition humaine perd de vue l'essentiel qui est Jésus-Christ. Et cette tradition que je vous ai transmise ici par rapport à l'Église catholique touche toutes les grandes religions de ce monde. Et peut des fois toucher notre milieu évangélique si on ne fait pas attention. Que notre tradition prenne le dessus sur ce que la parole de Dieu dit. Toute cette philosophie nous éloigne de la pleine philosophie, celle de Jésus-Christ. Christ est l'exemple même de l'amour, de la sagesse. Philosophia. Plein amour de la sagesse. Le problème de la philosophie, c'est que ça comblera jamais ma vie et que j'aurai toujours des réponses, des questions sans réponse. La philosophie de ce monde change en fonction des périodes, donc aucune stabilité. On va voir le tableau suivant, si tu peux le mettre. Voilà, je vous ai mis quelques philosophes, hein. Chacun, on pourrait le prendre, étudier sa philosophie et voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont apporté des choses bonnes là-dedans. Et on est encore soumis avec ces pensées-là. Voilà un peu la philosophie de ce qu'elle dit. Il y a la soif du divertissement, le culte du corps, besoin d'être valorisé, l'homme se suffit à lui-même, chacun a sa vérité, abandon de l'absolu, je sens donc je suis, religion à la carte, sentiments et expériences sont prioritaires, Dieu est mort. Je ne vous demande pas de mettre des trucs comme ça pour savoir qui a dit quoi. Mais voilà un peu ce que la philosophie nous dit. Et malheureusement, ces choses-là, dans notre vie chrétienne, ça revient parce qu'on a été influencé depuis des années et des siècles par ça. Besoin d'être valorisé, c'est une philosophie de ce monde, c'est pas une philosophie biblique, mes amis. Moi, j'ai besoin d'être valorisé par quelqu'un. Non. Toi, oui, va mettre en valeur quelqu'un. Mais c'est différent. C'est plus la même philosophie. La philosophie chrétienne, c'est je vais voir Élie. Et je vais l'encourager pour que lui, il soit au-dessus de moi, que je le mette en valeur. Pas moi que j'attende qu'on vienne me valoriser. Le culte du corps. Ah, toujours avoir un beau corps, toujours être nickel, être bien entretenu. Je dis pas qu'il faut pas avoir une vie saine, mais que mon corps prenne le dessus. Non. Et tout cela, mes amis, ça nous touche. Chacun a sa vérité. Non, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a plus d'absolu. On croit ce qu'on veut. Donc on fait vraiment du mal. Vraiment du mal à notre société. Et on est encore emprunt de ces choses-là. Je ne dirais pas qu'il y en a un plus que l'autre, mais... Voilà. On va continuer avec 1 Corinthiens 1, 20-24 par rapport à ces hommes, pour vous montrer que la philosophie de ce monde est folie. Prenez avec moi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, et je vais lire versets 20 à 24. Verset 19. Aussi il est écrit, 1 Corinthiens 1, verset 19. Je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la philosophie de ces hommes et de leur sagesse. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le penseur de ce siècle? Où est le philosophe de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ. Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà mes amis, la pleine philosophie, c'est Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. La vraie philosophie de ce monde est fausse. La pleine philosophie d'une vie authentique, c'est Jésus-Christ. Paul encourage ses frères et ses sœurs à prendre garde à la philosophie et tradition de ce monde, car l'Église est constamment confrontée au danger de ces faux enseignants qui courent les rues. Et on le voit dans Matthieu 7, 15, qui dit « Faites attention à ces hommes séducteurs qui vont venir sous l'apparence de brebis, de bons bergers. » Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Ils attendent une seule chose, c'est de prendre et de manger les brebis. Faites attention à ces hommes-là. Faites attention. Toujours dans notre texte biblique, donc il nous avertit contre cette philosophie et ces traditions humaines. Et puis il y a un autre terme. Encore hier soir tard, pas hier soir tard, mais hier soir avec Ed, je lui demandais qu'il m'aiguille un peu parce que j'arrivais pas à saisir qu'est-ce que l'auteur voulait, de quoi parlait l'auteur vraiment dans ce, Paul parlait dans ce texte. C'était cette notion de s'appuyant sur les traditions humaines, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et on essaie de voir ensemble qu'est-ce que ça voulait dire ces principes élémentaires. Alors, c'est un terme difficile, hein, on l'a reconnu, à cataloguer, mais dans le contexte, c'est l'idée du syncrétisme. Vous savez, c'est cette idée de mélanger l'idolâtrie avec la foi en Christ. Ça se fait chez nous, mais ça se fait aussi souvent, je l'ai vu moi quand j'étais en Afrique, le matin, j'avais des frères et sœurs qui étaient en Christ, qui étaient là à l'église, et puis l'après-midi, ça ne les dérangeait pas d'aller faire un peu de vaudou ou des choses comme ça. Et c'est ça un peu l'idée, c'est ces choses élémentaires, revenir aux choses élémentaires. Paul avertit les Colossiens qui n'ont pas besoin des choses de ce monde pour adorer Christ. Vous avez besoin de rien pour adorer Christ à part votre foi et l'Esprit de Dieu qui est en vous. Pas besoin d'objets ou de rituels mystiques. Et on voit ça dans Galates. Comme brûler quelque chose, mettre de l'encens, garder un pendule sur soi, consulter l'astrologie pour avoir une réponse de Dieu, avoir des objets qui nous protègent. Tout cela, ce sont des principes élémentaires qui nous font revenir en arrière. Un auteur disait, ces choses-là, c'est comme si tu avais un doctorat et que tu veux recommencer ta scolarité au CP. Il essaie d'illustrer ce passage par ce terme-là. Vous avez tout pleinement en Christ, vous avez cette pleine philosophie en Jésus-Christ, pourquoi voulez-vous revenir en arrière par ces objets qui ne servent à rien? Mes amis, toutes ces choses-là ne servent à rien. Lorsque tu as tourné le dos à ta vie passée, que tu as demandé pardon à Dieu de tes péchés et que Christ est le Seigneur de ta vie, alors cette vie est complète. À tout. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis convaincu que j'ai tout en Jésus-Christ? C'est ça le challenge à relever pour nous. Est-ce que j'ai saisi que j'ai tout en Jésus-Christ? Pourquoi veux-tu autre chose que Christ? Regardez verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout en Jésus-Christ. pourquoi veux-tu autre chose que Jésus-Christ? Peut-être parce que ce matin, tu ne saisis pas ce que je suis en train de te dire. Peut-être parce que ce matin, tu ne comprends pas ce que la parole de Dieu veut te dire. Vous savez, des fois, si on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire le matin, dans sa parole, c'est parce qu'il y a peut-être le ménage qui n'a pas été fait dans notre vie. Peut-être que le ménage n'a pas été fait dans ta vie ce matin. Vous savez, lorsqu'on veut faire le ménage dans notre vie, on va perdre des choses, c'est vrai. J'ai perdu des choses quand j'ai donné ma vie à Christ et que je me suis converti. Mais j'ai perdu que des choses qui ne me servaient à rien, qui étaient vaines. Vous savez quoi? Christ m'a tout donné ensuite. Mais il m'a mis des choses dans ma vie qui valent le coup d'être vécues encore aujourd'hui, qui ont de la vraie valeur. Et c'est pour ça qu'il est important de donner sa vie à Jésus-Christ et de le laisser faire le ménage dans notre vie. Mais réellement, un vrai ménage, pour saisir vraiment ce que le texte biblique est en train de nous dire. J'ai tout pleinement en Christ. Et on continue notre texte biblique. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je m'arrête là, je vais juste continuer. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Voilà. Je m'arrête là. Donc on a vu que la philosophie païenne et le légalisme juif dans la ville de Colosse étaient présentes. Et elle enseignait que la circoncision était un moyen de salut. Vous savez que dans la culture juive, comme je pense aussi dans la culture musulmane, l'enfant doit être circoncis 8 jours après sa naissance. Donc un acte chirurgical, physique, hein, pas spirituel, qui est là. Et c'est un signe d'appartenance à une certaine alliance avec Dieu dans ces religions-là. Mais la circoncision physique dans la Bible reste un symbole pour illustrer cette circoncision spirituelle dans notre cœur. Est-ce que tu peux mettre le tableau? J'essaie de faire un petit tableau pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que Paul est en train de vouloir dire ici. La circoncision charnelle, c'est une opération chirurgicale extérieure. C'est juste une partie du corps, c'est fait à la main et n'apporte aucune aide pour vaincre le péché. Par contre, la circoncision spirituelle et le plein pardon en Jésus-Christ, le plein salut en Jésus-Christ qu'on va voir maintenant, c'est interne. C'est une circoncision spirituelle du cœur. Il va enlever nos péchés. Il va racler tout ce qui ne va pas. Il va faire le ménage dans notre vie. Et c'est tout l'ensemble des péchés. Et c'est fait sans les mains. C'est fait par la puissance de l'Esprit. Et la fin, c'est surtout ça qui est important. Ça permet de vaincre le péché en nous. Et c'est de ça qu'il est en train de parler dans ce passage-là. C'est pas en levant un bout de chair que ta vie va changer à 8 jours de ta naissance. C'est pas ça qui va changer ta vie. Ça, c'est juste un acte, on dirait plutôt hygiénique. Mais purifier le plus profond de mon être en retirant vraiment ce qu'il y a de péché dans ma vie, ça oui, ça va changer et transformer ta vie à jamais. Dans beaucoup de religions, les rites physiques restent importants et sont indispensables pour être quelqu'un de pieux et espérer aller au paradis. Tradition humaine, Dieu s'en moque. Dieu se soucie de l'état de ton cœur ce matin. Dieu se soucie de l'état du cœur de l'être humain et pas de ses traditions ou de ses rituels. Vous savez, comme disait Jésus, j'appelle ça des hypocrites. Tous ces rituels que les hommes ont inventés dans leur religion pour acquérir le salut restent juste un soulagement de conscience. Rien d'autre. Mais cela ne réglera jamais le problème réel. Le péché. Ce n'est pas la circoncision de la main qui sauve, c'est la circoncision de la vieille nature qui dirigeait ma vie. Vous savez, cette vieille nature qui ressort des fois en nous. Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, la parole de Dieu dit qu'on est une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça la circoncision, c'est que cette vieille nature a été arrachée, a été coupée. Et Christ nous a donné une nouvelle. Je vous pose une question. Pourquoi cette circoncision spirituelle a lieu par le baptême, et de quel baptême parle-t-il ici? C'est ce qui est marqué dans le texte biblique. Vous avez tout plein de... verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Donc c'est Christ qui a enlevé ce péché en nous, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Donc enlever toute cette vieille nature mauvaise, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez aussi ressuscité en lui et par lui. Le baptême, dans beaucoup de religions, et notamment l'Église catholique, mais d'autres aussi, Le baptême est un acte de salut. Si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu ne peux pas être sauvé. Il y a encore une erreur bibliquement. Le baptême ne sauve pas. Ce n'est pas de l'eau du robinet qui va faire que vous êtes purifié. La véritable purification, c'est lorsqu'on accepte Christ. Et cette image du baptême spirituel, c'est lorsque je reconnais que Christ est mort pour moi, je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Ça, c'est le baptême spirituel. Mais que quand vous parlez aux gens, on ne peut pas comprendre. Donc, le Seigneur a dit, on va mettre le baptême d'eau pour illustrer ce qu'est le baptême spirituel. Donc, quand on se fait baptiser, pour ça l'importance de l'immersion, à mon sens, biblique, on est plongé dans l'eau, mort avec Christ, et on sort de l'eau et on est ressuscité avec Christ. Et c'est cette image de la circoncision par le baptême. On ne peut pas être circoncis spirituellement si on n'a pas été mort avec Christ et ressuscité avec Christ par le baptême spirituel, qui à mon avis, il parle du baptême par l'esprit, ici, et non d'un baptême d'eau qui ne sauvera jamais personne. Mon salut est complet en Christ, pas besoin de rites religieux, de circoncision ou de baptême par eau. Le baptême par eau est important et un commandement de Dieu lorsque nous avons compris réellement ce que Christ a fait pour nous dans notre vie. Moi, j'étais grandi dans une famille catholique, j'étais baptisé avec de l'aspersion sur la tête, mais c'est pas ça qui a fait que j'étais un enfant de Dieu, c'est pas ça qui a fait que j'étais sûr d'aller au paradis auprès du Seigneur, ça non. C'est plus tard quand j'ai compris que Christ était mort pour moi, que je l'ai accepté dans ma vie, que j'ai demandé pardon de mes péchés, que j'ai dit, je veux te suivre Seigneur dans ta parole. C'est là ensuite que je suis passé par les eaux du baptême, par immersion, pour montrer aux gens ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Mais ça reste juste un symbole, une image. Et on continue verset 13 et 14 pour montrer ce plein pardon. Vous qui étiez morts par vos offenses, verset 13, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Un plein pardon. Regardez ce verset. Relisez-le. Relisez-le. Posez vos yeux sur ce verset, lisez-le. Mes amis, notre ingratitude oublie ce verset-là, de ce que Christ a fait pour nous. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent, je suis sauvé, c'est bon, je vais au ciel, c'est fini. Mais arrête un peu. Le salut est le commencement de ta vie chrétienne. Si après être sauvé, tu ne veux pas vivre une vie pleine en Jésus-Christ, mais tu es en train de renier le pardon de Dieu pour ta vie, si tu n'es pas capable de pardonner les autres, si tu n'es pas capable de prendre du temps avec le Seigneur au quotidien. Mais ce verset fait souffrir le Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu, ouais, cette notion dans le verset, opposition de la mort et de la vie, il vous a rendu à la vie avec lui. Comme on l'a chanté ce matin. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Comment pouvons-nous sortir d'ici ce matin sans que ma vie change? Regardez-moi. Comment pouvons-nous sortir ce matin sans que ma vie désire réellement changer dans plusieurs domaines? Que tu sois chrétien ou pas ce matin. Si tu n'es pas chrétien, ta vie peut changer en acceptant Christ et vivre le plus beau des jours ce matin. Et si tu es un chrétien, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans ta vie ce matin. Prêt à vouloir vraiment changer dans ta vie. Et tu prêt vraiment à vouloir croire au plein pardon de Christ dans ta vie pour être libéré de ce qui t'empêche d'avancer ce matin. Tu le sais, ce qui t'empêche de grandir ce matin. Peut-être ta fidélité dans la parole de Dieu, peut-être ta fidélité dans la prière, peut-être de la rancune, de l'amertume contre quelqu'un, peut-être un manque de joie, un manque de reconnaissance. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce plein pardon en Jésus-Christ? J'étais mort à cause de mon mensonge, à cause de mon incrédulité, à cause de mes regards, à cause de ma rancune, à cause de ma haine. Aujourd'hui, je suis vivant grâce à son pardon. Oh, le pardon de Dieu, mes amis. Bien souvent, je passe des journées sans avoir compris cela. Quelle tristesse pour ma vie. Comment ?
Moi, j'ai expérimenté.
Non, c'est ça.
Non, mais je l'ai vu mes propres yeux.
Oui. C'est ça, il faut expérimenter ce pardon de la grâce de Dieu. Vous savez, Christ a effacé tout ce qui me condamnait. Et comme disait c'est Ed qui disait tout à l'heure, on peut dormir tranquillement. Lorsque ma conscience a été purifiée par Christ, alors j'ai un oreiller tranquille pour dormir. Quel soulagement. Vous savez, il y a tant de gens aujourd'hui qui vivent sous le poids de leur péché, sous le poids de la culpabilité, sous le poids de tous ces soucis de la vie. Alors que Christ est là pour les soulager, il dit, viens à moi, viens, je veux te porter, je veux te soulager, viens à moi. Et notre orgueil, notre moi-je, dit, mais non, pas besoin de toi. Vous connaissez la maman et le petit garçon, je vais pas raconter toute l'histoire en entier, mais ce petit garçon qui écrit à sa maman et qui lui dit, bon maman, pour avoir fait le jardin, tant d'euros, pour avoir fait garder mon petit frère, tant d'euros, pour t'avoir aidé à débarrasser, tant d'euros, pour avoir fait mes devoirs, tant d'euros, pour avoir sorti les poubelles, tant d'euros. Puis la maman, elle regarde, puis elle lui répond, pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour prendre soin de toi chaque fois que t'as un petit bobo, c'est gratuit. Pour venir te consoler quand tu pleures le soir, c'est gratuit. Pour venir te donner un coup de main quand tu as des problèmes à l'école, c'est gratuit. Et puis, elle lui renvoie ça. Et puis, en même temps, elle lui marque, mon amour est gratuit pour toi. Et c'est un peu ce que Jésus-Christ veut nous dire par son pardon. Son amour est grand, son pardon est gratuit et plein. Et pour moi. Si nos vies étaient imprégnées de la grâce de Dieu et de son pardon, nos pensées et nos paroles seraient différentes, comme cette maman. Nous avons un plein salut, un plein pardon, et on va terminer avec quelque chose qui est beau, une pleine victoire. On termine avec ce verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Amen. C'est l'image de ce général romain triomphant, qui ramène ses vaincus, je dirais presque à les traîner par terre sur son char, et montre à la foule, regardez, ils sont finis, ils sont vaincus. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. Lorsque Christ a vaincu à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a montré au monde entier, Satan est vaincu. Satan pensait qu'il était vainqueur quand il a vu que Christ allait mourir à la croix. Il pensait ça, Satan. Mais il a vu la pleine victoire de Jésus-Christ. Et vous savez quoi ? Lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, nous dit la parole de Dieu. L'ennemi ne pourra plus jamais prendre possession de moi. C'est fini. Tant que je ne suis pas en Christ, il peut. Il a le pouvoir de faire ça. Mais maintenant que je suis en Christ, il n'y a qu'un seul qui peut habiter en moi. Soit le diable, soit Christ. Et Christ habite en moi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas venir m'attaquer, m'embêter. N'habitera plus jamais en moi parce que je suis vainqueur en Jésus-Christ. Et j'espère que tu es vainqueur en Christ ce matin. Et c'est pourquoi il a la haine contre les chrétiens. C'est pourquoi le diable a la haine contre les chrétiens. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus nous avoir. Parce qu'il est perdant. Et rien ne pourra nous séparer de la grâce de Dieu. La mort de Christ, a dit un auteur sur la croix, a démasqué Satan et il a mis à nu sa tromperie. Cette victoire est complète. Et toi et moi, nous partageons cette victoire sur Satan. C'est notre foi en Jésus-Christ. Ce matin, tu as le choix entre suivre la sagesse humaine ou la sagesse de Christ. Suivre la sagesse humaine laissera ta vie insatisfaite et frustrante. Suivre Christ te donne un salut complet, un plein pardon, pleine victoire. Et mes amis, si ton salut est complet, si tu as le plein pardon en toi, et si tu as une pleine victoire,